Dès votre entrée dans la vie active, pensez à préparer votre retraite avec Sounou Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un orteil gonflé, une articulation rougie, une douleur insupportable, une poussée de fièvre, c'est peut-être la goutte, ce rhumatisme inflammatoire provoqué par un excès d'acide urique. La goutte est souvent associée à d'autres pathologies, parfois du diabète, de l'hypertension, de l'obésité. Une maladie surtout masculine, 9 personnes sur 10 atteintes de goutte sont des hommes. Et des hommes mûrs, elles se déclarent surtout entre 50 et 60 ans. En cause, une alimentation trop riche, une activité rénale défaillante. Ces symptômes doivent pousser à consulter pour traiter la crise aiguë et envisager un traitement de fond, car la goutte se soigne. Pour la goutte chronique, des mesures diététiques sont indispensables pour limiter les récidives. Manger moins de viande, moins gras, arrêter l'alcool. L'évolution de la maladie sera précisément conditionnée par ces mesures, une bonne observance du traitement et surtout au respect de ces changements parfois drastiques liés à l'hygiène de vie. La goutte, la diagnostiquer, la prendre en charge avec nous en studio. Professeur Maya D'Agostino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. En deuxième partie de Priorité Santé, nous retrouverons en ligne du Congo le professeur Honoré Nsiba, professeur titulaire de rhumatologie et chef de service de rhumatologie au CHU de Brazzaville. En fin d'émission, nous retrouverons le lauréat du prix Birthday Prize qui a été décerné il y a 2 semaines par la Commission européenne, le docteur Alexandre Dumont, gynécologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Son travail porte sur la réduction de la mortalité maternelle et néo-infantile en milieu hospitalier dans les pays du Sud. Pour témoigner, pour toutes vos questions, le numéro de l'émission Priorité Santé, c'est toujours le 33 84 22 75 75. Professeur Maya D'Agostino, la goutte appartient à la grande famille des rhumatismes. Comment se déclenche cette inflammation qui est responsable donc de cette douleur qui peut être très vive?
Normalement, la goutte, comme vous l'avez dit, ça fait partie des rhumatismes inflammatoires, notamment des rhumatismes microcristallins. Donc, elle est due à un dépôt de cristaux dans l'articulation. Ces dépôts s'est fait au cours des années. Et donc, parfois, avant que la crise des gouttes se manifeste, il passe très, très longtemps et les patients, ils peuvent être asymptomatiques. À un certain moment, on ne connaît pas vraiment bien les causes. Il y a un déséquilibre qui se forme et ces cristaux entraîne une réaction inflammatoire, ce qui provoque la crise des gouttes.
Une inflammation sur l'articulation, c'est comme une mauvaise réponse à une information donnée, c'est cela?
On va dire que c'est plutôt une bonne réponse, parce que notre corps n'aime pas d'avoir des substances étrangères ou des corps étrangers. Donc, ils essayent de libérer l'articulation de ces dépôts de cristaux qui est mauvais pour la santé articulaire.
Alors, c'est un excès donc d'acide urique, c'est bien ça. Mais il peut y avoir un excès d'acide urique sans goutte. C'est pas parce qu'on a ce problème qu'on va souffrir forcément de goutte, professeur Maya D'Agostino.
En effet, la goutte, c'est un mauvais équilibre de cette accumulation qui s'est faite au cours des années de cet acide urique. Normalement, notre corps essaie de maintenir un équilibre. On a besoin de l'acide urique pour notre vie quotidienne. Donc, au niveau sanguin, l'acide urique, elle doit être au-dessus d'un certain niveau. Et quand il y a trop d'acide urique dans les sangs, c'est lui, il va se déposer au niveau des tissus extra-sanguins. Donc, il peut être des tissus articulaires ou extra-articulaires. Par exemple, au niveau du rein ou d'autres organes. Quand cet équilibre arrive à être non plus contrôlé, on a une réaction inflammatoire pour essayer d'éliminer ces cristaux. Et ces cristaux, l'élimination de ces cristaux par les cellules de l'inflammation provoque cette crise inflammatoire.
Alors, est-ce que l'inflammation attaque certaines articulations, certaines parties du corps en particulier?
Alors, normalement, on dit que la goutte touche les articulations qui sont en sous-charge biomécanique. Normalement, les articulations des membres inférieurs, notamment les premières orteils, la première MTP, métatarsophalangienne, mais aussi au niveau du dos du pied, de la cheville, du genou, et donc tous les grosses articulations qui ils ont sujet à une charge normale ou augmentée quand on va marcher, on va mobiliser nos articulations.
Alors on peut avoir donc très mal au pied, hein, simplement par le simple fait de le poser, c'est ça?
On va dire que la goutte, c'est une des maladies inflammatoires articulaires les plus douloureuses. Les patients, normalement l'accès goutteux arrive parfois la nuit. Les patients, ils se réveillent et même les poids du drap sur les pieds, sur l'articulation, devient insoutenable. Donc c'est une douleur très vif, très fort, et les patients, ils ont cette articulation très rouge, très inflammatoire, et cette inflammation qui peut être localisée, mais elle est aussi systémique, peut donner, comme vous l'avez bien dit, des accès de fièvre.
Et est-ce que le diagnostic est simple à poser? Donc on a parlé de ces douleurs aiguës, gonflement de l'articulation, peut-être même une couleur un petit peu rouge, fièvre possible. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres signes qui font dire au médecin poser ce fameux diagnostic de goutte?
Alors, normalement, dans la première crise des gouttes, donc lors du premier attaque, c'est normalement la localisation de la crise articulaire au membre inférieur, l'effet d'avoir une articulation rouge et douloureuse, les sexes masculins et probablement d'autres facteurs de risque comme par exemple un surpoids ou un diabète. Ils nous font évoquer en première intention une crise des gouttes. Mais il ne faut jamais oublier qu'une articulation rouge, douloureuse, inflammatoire avec de la fièvre, il faut faire exclure en première intention une infection.
Une infection, donc peut-être par une prise de sang, un test sanguin.
Normalement, un test sanguin, une infection, mais aussi l'interrogatoire du patient est très important.
Alors, première crise, est-ce qu'il y a une durée moyenne justement pour cette crise aiguë? On va justement distinguer, professeur Maria D'Agostino, cette crise aiguë de la goutte chronique pour bien comprendre que là, la crise aiguë, on peut dire que c'est le déclenchement de la maladie.
Alors, il peut être le déclenchement de la maladie ou il peut être une première information d'une possible maladie. Parce que, par exemple, un déséquilibre du métabolisme de l'acide urique peut être dû, par exemple, si on boit beaucoup pendant un week-end, il arrive parfois aux jeunes étudiants.
On boit beaucoup d'alcool.
D'alcool, exactement. On boit beaucoup d'alcool lors d'un week-end un peu arrosé et les lundis matins, on peut se réveiller avec une crise articulaire, la première MTP, parce qu'il y a eu un dépôt d'acide urique. Ça, c'est normalement une première alerte qu'elle va nous dire, attention, ces patients, elles peuvent être sujets probablement dans les futurs à une maladie goutteuse. Mais normalement, les premières attaques, c'est seulement ces déséquilibres entre les dépôts d'acide urique et l'élimination d'acide urique. Quand les crises, elles deviennent plus fréquentes, c'est-à-dire on a un, deux, voire trois crises dans l'année, on dit que c'est arrivé le moment de considérer la crise aiguë comme une maladie goutteuse, qu'elle doit être traitée par un traitement de fond.
Alors, quand la maladie s'installe, on voit certaines déformations au niveau des articulations. Professeur Maria D'Agostino, à quoi cela est-il dû?
Comme je le disais auparavant, la crise des gouttes, elle est due à un dépôt des cristaux d'acide urique. Ces dépôts des cristaux, ils peuvent provoquer une crise inflammatoire pour essayer de les libérer, mais elle peut aussi se faire de façon silencieuse et donc déposer ces cristaux qui provoquent l'étophie, c'est-à-dire l'étophus, cette accumulation de cristaux et de cellules.
On peut dire, c'est comme des petits cailloux qui se forment,
exactement,
qui se greffent sur l'articulation.
Ces greffes sur l'articulation provoquent des inflammations, des érosions et des déformations.
Ça s'opère ou ça ne s'opère pas?
Normalement, on les opère pas. On peut les opérer s'ils sont très douloureuses ou ils gênent la mobilité des articulations et des tendons. Mais avec un bon traitement conduit, ils vont s'éliminer au fur et à mesure.
On va parler des traitements surtout tout à l'heure, hein, quand on va avoir les auditeurs de Priorité Santé en ligne. Mais en tout cas, on a bien compris après le diagnostic, on va bien sûr penser au traitement. Et quand on dit traitement, à côté du médicament, il y a toute une hygiène de vie à changer, notamment tout un nombre de restrictions restrictions en termes d'alimentation et aussi de boissons. Ça, c'est très important, hein, professeur Maria D'Agostino.
En effet, oui, on sait que le métabolisme de l'acide urique est très particulier. Donc, on sait que pour maintenir l'acide urique à un niveau normal, il faut éventuellement diminuer le rapport. Et vu que c'est un produit de dégradation des cellules, de l'ADN des cellules, une alimentation riche en viande, avec beaucoup de cellules, etc., provoque une augmentation de l'absorption d'acide urique. Et donc, diminuer l'apport des charcuteries, de viande rouge, et donc de tous ces aliments qui peuvent provoquer, augmenter ces métabolismes, c'est vraiment très important. L'alcool provoque aussi une augmentation de l'acide urique parce qu'elle provoque une déshydratation et donc une accumulation de l'acide urique, donc une modification aussi du pH sanguin et une difficulté à éliminer l'acide urique à niveau rénal. Donc il faut faire attention à une hygiène de vie correcte.
Alors souvent quand on dit hygiène de vie correcte, on pense manger du poisson, mais pour la goutte, ce n'est pas recommandé. Est-ce qu'il y a certains poissons qui sont bons, d'autres poissons qui sont plutôt à éviter?
Alors normalement, on dit que les poissons qu'ils sont faibles en calories, c'est que normalement on voudrait nos femmes utiliser pour être bien, donc qu'elles ont une apport en protéines correcte, pas trop élevé, donc qu'elles doivent pas être dégradées par l'organisme et donc former de l'acide urique, ils sont bons. Mais les poissons riches en gras, en oméga 3, ils sont à contre-indiquer.
Plutôt aller donc vers les poissons maigres. Vous restez avec nous, hein, professeur Maria D'Agostino. On va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs, eh bien, c'est Augustin. Il nous appelle du tchat de Djamena. Bonjour Augustin.
Ah, bonjour.
On vous écoute. Dites-nous pourquoi justement vous voulez aujourd'hui avoir des informations sur cette maladie, sur la goutte.
En effet, parlant de la goutte, moi j'ai mon père qui avait la douleur articulatoire. Et il s'était rendu dans une structure sanitaire. Il y avait passé un test médical qui a révélé à cet effet qu'il souffrait de la goutte. Et il a pris un traitement intense et il a dû arrêter faute de moyens. Alors plus souvent, j'entends dire la consommation excessive de la viande des animaux non domestiqués qui est l'une des causes de cette maladie. Mais pour certains, ils disent que c'est la consommation plutôt excessive de la viande grasse.
Augustin, est-ce qu'on a donné des recommandations à votre père en termes d'alimentation? Est-ce qu'à côté des médicaments donc qu'il a pris dans un premier temps, eh bien le médecin lui a dit qu'il faut éliminer tel ou tel aliment?
Oui, en effet, on lui a demandé de ne pas consommer trop gras, aussi éviter la consommation de sauvagine.
Donc, de la viande de brousse. J'ai donc cette question au professeur Maria D'Agostino. Augustin demande des précisions sur la viande précisément, viande grasse, viande de brousse, on dirait ici gibier. Qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce que c'est très riche aussi, le gibier, c'est très riche, on va dire par exemple le canard, le sanglier ici, au sud ça peut être l'agoutis. Qu'est-ce qui est recommandé en termes justement d'apport carné?
Alors normalement, la goutte, c'est une maladie qui est due à une élimination des purines, on va dire comme ça, de ces produits qu'elles sont dans l'ADN des cellules. Et donc, tous les viandes qui sont riches en cellules, donc en cellularité, ils provoquent une augmentation de l'excrétion et du métabolisme de ces substances qu'elles sont dans toutes les cellules. Donc, on va dire que les viandes maigres, elles ont un apport protéique qui est bon, mais dans les mêmes temps, ils n'ont pas l'apport cellulaire du gras, donc qui fait une sommation des cellules qu'il faut en quelque sorte éliminer.
Pour parler plus simplement, mieux vaut manger du poulet, par exemple.
Mieux vaut manger du poulet, normalement des viandes blanches. Blanches, ça veut dire qu'elles n'ont pas beaucoup de sang, donc elles n'ont pas beaucoup de, on va dire, des cellules.
Par exemple, l'agneau, est-ce que c'est recommandé?
L'agneau, c'est très recommandé, c'est un bon produit. Les poulets, donc toutes les viandes qu'elles sont maigres, considérées maigres.
Augustin, ce n'est pas tellement en termes de gras là pour la viande de brousse, c'est plutôt parce que c'est quelque chose qui est très riche, très nourrissant. Donc effectivement, c'est plutôt un aliment à exclure pour quelqu'un qui souffre de la goutte. Voilà pour la réponse à votre question. Est-ce que cette réponse vous satisfait ?
Je demande quels peuvent être les facteurs qui causent exactement la goutte.
Ben c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure le professeur D'Agostino, c'est cette présence dans le sang, dans l'organisme, de micro-cristaux qui vont sur l'articulation, c'est bien ça si je résume,
exactement.
Et qui vont provoquer une inflammation. Donc il faut limiter l'apport de tout ce qui peut créer ces micro-cristaux, j'ai bien compris.
Exactement.
Voilà, la leçon a été bien retenue. Donc il faut changer aussi une manière de se nourrir pour moins provoquer justement ces réactions.
Et éventuellement, il faut essayer de manger des aliments qui ne sont pas riches, trop riches en cellules, qui ont beaucoup, on va dire comme ça, d'acide urique. Par exemple, privilégier les végétaux, privilégier les légumes, des fruits. De cette façon, vous avez une alimentation pauvre en calories, c'est qu'elle veut dire qu'elle permet une élimination meilleure de l'acide urique.
Merci beaucoup Augustin pour votre appel de N'Djamena au Tchad. On va rester d'ailleurs à N'Djamena tout de suite avec Idriss. Bonjour Idriss.
Oui, bonjour la radio Réville.
On écoute votre question.
Bon, moi je me demande, la goutte est une maladie héréditaire ou bien c'est une maladie comme d'autres?
Alors, la goutte, c'est une maladie qui a une composante familiale, c'est-à-dire l'hérédité, elle ne se fait pas de façon directe à 100%, mais vu qu'il y a des facteurs génétiques, ça veut dire qu'il y a plusieurs cas dans la même famille. Donc, si on a des parents ou quelques membres de la famille proche qui ont goutte, on a beaucoup plus de chances de développer une goutte. Ça veut dire qu'on a une prédisposition à faire une accumulation de l'acide urique au niveau des tissus articulaire et périarticulaire. Donc il faut vraiment faire attention dès les débuts à avoir une alimentation qui n'est pas trop riche en acide urique et donc il empêche les dépôts de ces cristaux et qu'il va provoquer ensuite au cours du temps une crise des gouttes.
Donc Idriss, hein, le conseil, même si peut-être vous mangez pas mal de viande, il y a des mesures de prévention, changer des choses dans l'alimentation pour éviter justement d'augmenter les risques d'hérédité de cette maladie. Merci beaucoup hein, Idriss pour cet appel de N'Djamena. On l'a vu, professeur Maria D'Agostino, il y a toujours une double approche médicamenteuse et diététique. Tout à l'heure, Augustin disait son père n'avait plus assez d'argent pour payer ses médicaments. Normalement, quand on est atteint de goutte chronique, les médicaments, c'est à vie?
Alors, normalement, les médicaments, ils sont, on va dire, à vie, au moins, jusqu'à quand on n'a pas rejoint les niveaux d'acide urique du sang qui permet de ne pas avoir des crises de goutte. C'est donc la limite normale. Ceci, il peut se faire s'il n'y a pas de façon, on va dire comme ça, héréditaire qui provoque cette augmentation de l'acide urique. Donc, on peut prendre les médicaments jusqu'à quand notre niveau d'acide urique il redevient normal et après arrêter les médicaments et avoir une bonne hygiène de vie pour éviter l'augmentation de l'acide urique. Mais il y a des cas dans lesquels on est obligé de prendre ces médicaments, on va dire, à vie ou pendant plusieurs années.
Alors, on va en reparler juste après la pause. On parlera justement des traitements. Peut-être qu'il y a des différences entre la première crise et le traitement au long cours. C'est quelque chose dont on parlera tout à l'heure. Vous nous aviez parlé tout à l'heure d'un premier produit pour la crise aiguë, la
colchicine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Quels sont les médicaments pour la crise aiguë? Mais après, on a des médicaments de fond dont l'objectif, c'est celui de maintenir les niveaux d'acide urique dans les sangs au niveau normand.
Eh bien, on va en reparler tout à l'heure en deuxième partie de Priorité Santé. On va vous retrouver, professeur Maria D'Agostino. Vous restez avec nous. On se retrouve, bien sûr, juste après. après le point de l'actualité. Vous pouvez continuer à nous appeler, hein. Je rappelle le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 84 22 75 75. À tout à l'heure.
Priorité Santé, Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé, toujours pour parler de la goutte et des façons de limiter les récidives après une crise aiguë. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Maria D'Agostino, rhumatologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Professeur D'Agostino, on a dit tout à l'heure que les hommes étaient touchés par la goutte dans 9 cas sur 10. Comment l'expliquer ?
Alors, normalement, on pense que il y a plusieurs facteurs pour cette augmentation de l'acide urique. Et un des facteurs qui sont bénéfiques, on va dire, qu'ils protègent de cette accumulation d'acide urique au niveau des tissus, c'est le fait d'avoir les hormones féminines. Donc, on va dire plutôt que les femmes, elles sont protégées jusqu'à la ménopause d'avoir cette augmentation de l'acide urique et ces risques leur redeviennent normaux, donc un à un, après la ménopause, quand on n'a plus les facteurs protecteurs des hormones. Donc, on a différents mécanismes. On pense aussi que les facteurs hormonaux masculins, comme les testostérones, les androgènes, sont aussi un facteur de risque. Et après la ménopause, quand ces hormones, elles deviennent aussi augmentées chez les femmes, il y a les mêmes risques que chez les hommes d'avoir une crise des gouttes et donc une hyperuricémie.
Alors, traitement, médicaments, on a dit tout à l'heure, il faut distinguer le traitement, on va dire, d'attaque en cas de crise d'aiguë, du traitement au long cours. Pourquoi on ne donne pas la même chose lors de la première crise que ensuite pour éviter la récidive? Pourquoi ce traitement change?
Alors, on va dire que normalement, lors de la première crise, on donne jamais un traitement de fond si on n'a pas d'autres facteurs de risque. Ça veut dire, et déjà, ça dépend aussi du niveau d'acide urique qu'on va découvrir lors de la première crise. Si la première crise s'est faite chez un sujet qui a une augmentation modérée, on va dire, de l'acide urique, sans avoir comorbidité, par exemple, un dépôt de l'acide urique reconnu au niveau d'autres organes, comme par exemple les reins ou des pots d'acide urique au niveau des articulations des tissus, les tophies, ces petits cailloux qu'on peut définir au niveau des articulations. Dans ces cas, on n'utilise pas des traitements de fond. On cure l'attaque aiguë, la crise aiguë, et après on donne des hygiènes, des normes d'hygiène de vie, donc manger moins riche en purines, en viande, etc., moins gras. Dans les cas où on a déjà des facteurs de base de gravité ou de sévérité, par exemple des maladies cardiovasculaires, dans ces cas, on débute aussi un traitement de fond.
Et comment la douleur est-elle prise en charge? On parlait tout à l'heure, professeur Maria D'Agostino, lors de cette première crise, parfois de douleurs très intenses, insupportables pendant la nuit, donc sans le moindre effort, sans le moindre quasi-contact, le simple contact du drap. On prend des antidouleurs dans ce cas-là?
Alors, les antidouleurs, malheureusement, elles ne sont pas efficaces parce que c'est vraiment une inflammation aiguë. Donc, ce qui est efficace, c'est un médicament qui enlève l'inflammation. Et les médicaments qui arrivent à agir très bien sur ce type d'inflammation sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple, ce qu'on connaît plus, on va dire, c'est les voltarènes, les biprophénides, etc. C'est seulement pour en citer quelques-uns. Et la colchicine.
Et justement, pour limiter la douleur au niveau purement mécanique, on parle aussi du froid, de l'immobilisation. Professeur D'Agostino, ça marche ça?
En effet, une articulation douloureuse, c'est une articulation qui est douloureuse au minime mouvement. Donc les repos aident, les froids aident parce que réduit la vascularisation et donc l'afflux des cellules inflammatoires à l'articulation qui est déjà bien abîmée.
On va vous retrouver, professeur Maria D'Agostino. On part maintenant pour le Congo.
Priorité santé sur RFI.
Et on retrouve en ligne de Brazzaville le professeur Honoré Ntiba. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur titulaire de rhumatologie, chef de service de rhumatologie au CHU de Brazzaville. Est-ce que vous recevez en consultation de nombreux patients atteints de la goutte, professeur Ntiba?
Oui, effectivement, nous recevons au cours de nos consultations en rhumatologie beaucoup de patients qui souffrent de goutte. C'est une maladie qui est très très fréquente dans notre pratique et qui se voit, comme l'a dit le professeur
D'Agostino.
D'Agostino tout à l'heure, qui se voit surtout chez l'homme. Ils ont 8 hommes peut-être pour 2 femmes, pour le sexe ratio, et qui se voit après la quarantaine. Alors chez nous, le facteur de risque, outre l'alimentation faite de viande et puis de graisses animales, c'est surtout la consommation d'alcool. Dans nos pays, on consomme énormément de bière, et en particulier, ces boissons alcoolisées sont souvent le facteur qui déclenche ces crises et qui font que les patients présentent cette symptomatologie fréquemment.
Alors justement, dans les règles d'hygiène de vie, on dit arrêter l'alcool, y compris la bière. Beaucoup de gens pensent, dans la bière, il n'y a pas beaucoup d'alcool, donc je peux continuer d'en boire. Eh bien, c'est complètement faux, professeur Ntiba.
Tout à fait faux. En dehors de la bière, nous avons en Afrique des boissons alcoolisées traditionnelles qui sont faites chez nous, qui sont très très alcoolisées. Il n'y a pas que la bière, il y a également des boissons locales qui sont fabriquées localement et qui contiennent beaucoup d'alcool. Et comme a dit la collègue tout à l'heure, la consommation d'alcool va donc entraîner un métabolisme exagéré, qui fait que les cellules vont se détruire et la destruction de certaines substances des cellules va se transformer en acide urique.
Est-ce que la goutte est connue hein, du grand public au Congo-Brazzaville, pardon, professeur Ntiba?
Oui, elle commence à être connue. Malheureusement, les patients ils consultent pas tôt, ils arrivent tardivement. Nous, les formes inaugurales, celles qui touchent le gros orteil, on les voit, nous, exceptionnellement, au début. Nous voyons beaucoup plus des formes dites oligo-articulaires ou polyarticulaires. Et ce sont ces formes que nous voyons après plusieurs années d'évolution. Et nous avons également des formes chroniques avec des déformations articulaires, des tophus, donc des dépôts d'acide urique sous la peau et parfois compliquées d'insuffisance rénale. Et c'est là où on les voit souvent après une dizaine d'années d'évolution.
Et là, avec une prise en charge forcément beaucoup plus complexe.
La prise en charge est beaucoup plus complexe lorsqu'il y a des détériorations articulaires. Lorsqu'il y a des tophis, des dépôts de cet acide urique sous la peau, ces dépôts sont disgracieux, inesthétiques, parfois demandent à être enlevés chirurgicalement. Et quand on met le traitement, bien sûr, ces dépôts d'acide urique mettent longtemps à disparaître.
Tout à l'heure, on avait
l'autre phénomène.
Oui, je vous écoute, pardon.
L'autre phénomène, c'est que la goutte, lorsqu'on fait une crise, au bout d'une semaine, de 10 jours, la crise disparaît. L'articulation redevient tout à fait normale jusqu'à la prochaine crise. Ce qui fait que le malade pense qu'il est guéri et il ne revient plus. Et ensuite, il a donc des crises qui vont se répéter, qui vont se rapprocher de plus en plus et qui vont détruire progressivement ses articulations malheureuses.
Professeur Honoré de Tiba, tout à l'heure, on avait un auditeur qui disait que justement, comme c'est une maladie récidivante, le traitement au long cours, ça revenait très cher pour les patients. Et certains, forcément, qui n'ont pas forcément les moyens, sont tentés d'arrêter ce traitement. Qu'est-ce que vous dites, vous, à vos malades? Ben, simplement, lorsqu'ils n'ont plus les moyens de payer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement éviter ces douleurs et éviter que la maladie n'empire?
Bien, en dehors des mesures hygiéno-diététiques, en particulier donc la diminution de la consommation chez nous de la viande de gibier, parce qu'elle est riche donc en purine, et de la consommation d'alcool, nous insistons beaucoup sur la consommation des boissons alcoolisées, parce que sur cela, on peut avoir un effet par rapport à la consommation de viande. Nous avons des régions dans le nord du pays, par exemple, où il y a à manger, c'est surtout de la viande, et c'est très difficile de dire à ces populations de ne pas manger de viande, puis ils n'ont que ça à manger. En ce moment, nous disons, vous réduisez la consommation de ces viandes, réduisez la consommation de viande rouge et surtout arrêtez la consommation des boissons alcoolisées. Quant au traitement, bon, le traitement de la crise, on donne la colchicine qui n'est pas très chère. C'est, au début, on met peut-être 2 comprimés, 3, voire 3 comprimés, mais ça donne la diarrhée, donc on va diminuer rapidement. Le traitement à un seul comprimé par jour. On va continuer ce traitement au bout de 15 jours, un mois. On va ajouter le traitement de fond. C'est ce traitement de fond qui va faire que l'acide urique de l'organisme va diminuer. Ce traitement de fond, nous avons l'allopurinol. C'est pas très cher. En plus, c'est un seul comprimé par jour. Donc, au niveau thérapeutique, c'est accessible. On peut accepter puisque des produits, qu'il s'agisse de la colchicine ou de la loperidol commercialisée chez nous sous le nom de Zilorite, par exemple, c'est pas très cher, c'est accessible.
Est-ce que la rhumatologie, justement, c'est une spécialité connue chez vous? Quand les personnes souffrent de gouttes, j'imagine qu'ils se dirigent dans un premier temps vers leur médecin généraliste. C'est important, justement, d'aller voir un médecin qui connaît particulièrement cette pathologie, professeur Honoré Nsiba?
La rhumatologie, elle commence à être connue. Nous, le service au CHU de Brazzaville va bientôt avoir une trentaine d'années d'existence. Donc, mais chez nous, quand une personne est malade, elle ne va pas tout de suite à l'hôpital. Nous avons, nous, des considérations socio-culturelles qui font qu'on pense qu'il y a un autre facteur difficile à expliquer scientifiquement dessous. Donc, ils ne viennent pas tout de suite à l'hôpital.
Ils passent aussi par le tradipraticien.
C'est ça. Il y a le tradipraticien, mais également des centres médicaux, mais où la performance au niveau du diagnostic n'est pas bonne. En ce moment, ils arrivent chez nous souvent tardivement, où ils ont déjà fait plusieurs crises, ils commencent à détruire leurs articulations, commencent à déposer donc cette acidurite sous la peau ou au niveau des reins. C'est ça le problème, parce qu'ils n'arrivent pas vite, pas très tôt. Le diagnostic souvent est retardé. D'autant plus que la prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, par automédication, va régler le problème de l'urgence de la crise aiguë.
Mais pas le problème de fond, on a bien compris. Merci infiniment, merci professeur Honoré Nsiba, professeur titulaire de rhumatologie, chef de service de rhumatologie au CHU de Brazzaville. On l'a bien compris, professeur Maria D'Agostino, un point essentiel, c'est de consulter à un stade précoce de la maladie, c'est très important.
En effet, les premières crises des gouttes doivent faire alerter sur une problématique sous-jacente et donc sur la possibilité de pouvoir changer certaines habitudes. Et je pense que apprendre aux médecins généralistes, aux gens qui côtoient la population au début, de l'importance de soigner et d'éduquer les patients, c'est vraiment quelque chose qui peut améliorer la prise en charge de cette pathologie.
On va prendre tout de suite en ligne un autre auditeur de Priorité Santé qui nous appelle de République démocratique du Congo. Cet auditeur, c'est Léonard en ligne d'Ouvira. Bonjour Léonard.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Léonard.
Oui, j'ai bien de suivre les explications du docteur D'Agostino. Je remercie beaucoup.
Merci.
Quant à moi, ça fait 3 mois que j'ai des douleurs au niveau de orteil gauche. Et c'est comme si vraiment on me piquait quelquefois dans cet orteil au niveau du bas de l'oncle. Et le 13 de ce mois, j'ai consulté le médecin et qui a supposé que c'était le goutte et qui m'a prescrit un médicament qu'on appelle l'Opnac en gel. Mais c'est depuis ce temps-là que j'applique le matin et le soir, mais pas de bons résultats. À telle enseigne que je ne porte pas le soulier, je porte maintenant des babouches, parce que ça fait très mal quand je porte le soulier. Alors je voulais demander, est-ce que vraiment c'est le début de goutte ou c'est comment? Parce que je suivais l'explication du docteur D'Agostino qui disait qu'il fallait aussi faire les tests sanguinaires. Comment on fait donc ces tests-là?
Alors, test sanguin, prise de sang, professeur Maria D'Agostino, pour confirmer éventuellement ce diagnostic de goutte dont pourrait souffrir Léonard.
En effet, c'est important, surtout quand on a un doute, et surtout dans les cas de gouttes qui sont aiguës, mais on va dire sub-aiguës. Il a mal, il a du mal à marcher, mais c'est pas cette crise aiguë, douloureuse, qui lui empêche de bouger l'articulation. Dans ces cas, l'effet de faire une prise de sang qui montre une élévation de l'acide urique ou une analyse des urines qui montre une augmentation de l'élimination de l'acide urique, ils peuvent aider au diagnostic et confirmer que la cause de la douleur dont il souffre Léonard, c'est vraiment une crise des gouttes.
Alors, le médicament dont il a parlé tout à l'heure, le Lofnac, c'est un anti-inflammatoire. Le plus souvent, ces anti-inflammatoires, on les donne sous forme locale, sous forme de pommade, ou on les donne sous forme orale, en cachet?
Alors, normalement, ils sont beaucoup plus efficaces en forme orale, parce qu'ils ont une meilleure absorption. C'est vrai qu'un gel, il peut avoir une absorption qui, au niveau de l'articulation touchée, mais les trop peu la quantité pour permettre une amélioration complète et durature de la crise.
Donc, Léonard, hein, ce conseil donc, oui, effectivement, ce serait bien de faire une prise de sang pour pouvoir confirmer le diagnostic et éventuellement une prise en charge avec d'autres médicaments qui vous soignent plus efficacement pour que vous puissiez vous débarrasser de cette terrible douleur. Merci beaucoup, Léonard, hein, de cet appel d'Ouvira. On va avoir un autre auditeur en ligne, c'est Eiba Djamena. Bonjour Eiba.
Bonjour.
On vous écoute Eiba.
Oui, moi j'ai une petite préoccupation là. Allô?
Oui, on vous entend, mais il y a beaucoup de bruit derrière vous. On dirait qu'il y a un petit peu de famille qui bouge derrière vous. On vous écoute.
J'ai un oncle qui souffrait de cette maladie. Il sentait d'abord des douleurs au niveau des articulations.
Oui.
Et c'est ce qui l'a amené à consulter dans un cabinet. Et après l'examen, le médecin a donné des examens, donc il a fait, à savoir Asno qui était positif. Et le taux d'acide urique était aussi élevé.
Mm-hmm.
Donc, devant ce chiffre, son médecin était contraint de lui prescrire des produits, à savoir l'extantinine.
En direct de Nawab.
Allô?
Oui, il y a plusieurs voix qui se superposent, c'est un petit peu compliqué. Donc on a bien compris que la question était sur votre oncle qui avait passé des examens et donc la goutte a été diagnostiquée. Une question précise peut-être, Iba, parce qu'on vous entend mal et on a un petit peu du mal à suivre ce que vous nous dites. Juste une question précise.
Oui, ma question est de savoir le mécanisme de cette maladie. Et est-ce qu'au stade de tophus, si c'est les lésions sont irréversibles ou non?
Alors la question d'Aïba sur le tophus, donc cette accumulation, ce petit caillou invisible, mais qu'on voit à l'extérieur parce qu'il y a une déformation de l'articulation, est-ce que c'est irréversible? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter justement la gêne? Parce que ce n'est pas forcément très joli, mais aussi c'est difficile à vivre.
Alors, normalement, une maladie goutteuse au stade des tophies peut être aussi soignée avec un traitement bien conduit au cours du temps. Les tophies peuvent disparaître, mais ils disparaissent au bout de quelques années de traitement s'ils sont pas très importants. S'ils sont trop gros et ils gênent normalement la mobilité de l'articulation, on peut les enlever chirurgicalement. Mais je peux rassurer, si votre oncle fait son traitement de façon bien conduite pendant des années, les tophies vont disparaître.
Ah, ça peut disparaître, c'est une bonne nouvelle pour Eiba. Merci beaucoup de cet appel de Djamena. On va prendre un dernier auditeur. Il s'agit de Mamadou qui est en ligne du Mali, de Bamako. Bonjour Mamadou, on vous écoute.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Bonjour,
Mamadou.
Docteur. Oui, j'ai connu cette maladie il y a moins d'un an. Je suis sous traitement Zilorixan et Colchimax quand il y a des douleurs. Mon problème, le pic de douleur a lieu le 24e jour du mois de carême de l'année passée. Et la question est de savoir si je pouvais gêner cette année et dans l'affirmatif, quelles précautions à prendre. Voilà, merci.
Un problème pour nos auditeurs, hein, pendant le ramadan, comment faire quand on jeûne, quand on a des problèmes de santé, qu'on a un régime spécifique à suivre, c'est pas forcément simple, mais de toute façon, quand on a des problèmes de santé, on a le droit de faire des exceptions, hein, professeur D'Agostino. Donc ce qu'on peut dire à Mamadou, c'est quoi exactement?
Ben exactement, normalement, si on a des problèmes de santé, on peut faire des exceptions, et c'est qui va provoquer cette crise lors du jeûne, c'est l'effet de ne pas boire. Donc c'est très important, c'est de ne pas se déshydrater, parce que même si le niveau d'acide urique il est plus bas grâce au traitement, il est quand même probablement un peu élevé, il peut aller se déposer et créer une crise des gouttes. Donc si vous pouvez au moins boire, ça serait quelque chose qui peut vous aider cette année.
Mamadou, donc essayez au moins de boire de l'eau, hein, simplement pendant la journée, même si on ne mange pas, mais au moins cet apport en hydratation. Très important. Voilà la réponse du professeur D'Agostino pour vous. Merci Mamadou. Oui, parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, professeur D'Agostino, des mesures plutôt alimentaires, des restrictions alimentaires. Mais un point très important aussi, c'est toujours de bien s'hydrater.
Exactement. C'est-à-dire l'hydratation, c'est très important pour permettre un bon métabolisme de l'acide urique, parce que son élimination, elle est plutôt rénale, ce qu'on connaît maintenant, même si on sait aussi que l'élimination, elle s'est fait directement à l'absorption, donc aussi par les systèmes gastro-intestinaux. Mais cet aspect-là, il est un peu moins connu, il commence à être étudié maintenant. Mais d'un point de vue, on va dire, normal, si on boit, si on a une bonne hydratation, si les reins, ils fonctionnent bien, on peut éliminer la plus grande partie de l'acide urique par les reins.
Voilà, j'espère que nous avons répondu à toutes les questions des auditeurs de Priorité Santé au sujet de cette maladie articulaire à la goutte. Merci à vous, professeur Maria D'Agostino, d'être venue dans les studios de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes rhumatologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt.
Priorité Santé sur RFI.
La réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Afrique, véritable problème de santé publique mondiale, sujet que nous abordons régulièrement dans Priorité Santé. Alors ce prix remis le 13 février dernier, le prix Birthday Prize décerné par la Commission européenne, ne pouvait que retenir notre attention puisqu'il récompense les recherches du docteur Alexandre Dumont dans ce domaine. Recherche effectuée au Mali, au Sénégal entre 2007 et 2011. Vous êtes en ligne avec nous, docteur Alexandre Dumont, pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour et merci.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, médecin gynécologue au Centre municipal de santé des Ulis dans l'Essonne. Alors, vos recherches récompensées à Bruxelles, elles étaient baptisées Programme Carité, Q-U-A-R-I-T. Et de quoi s'agit-il exactement, docteur Dumont ?
D'abord, oui, j'étais très heureux de recevoir ce prix des mains de Carlos Moedas, qui est le directeur de la recherche de la science et de l'innovation à la Commission européenne. Alors, juste pour un petit rappel, le Birthday Prize, en trois mots, ça signifie le prix du jour de la naissance en anglais. C'est pas l'anniversaire, birthday, mais c'est birthday en deux mots.
Le premier jour
de la naissance. Voilà. Ce concours, je le rappelle, il a été organisé par la Commission européenne pour répondre aux défis de la mortalité maternelle et néonatale dans les pays à ressources limitées. Alors, c'est en effet une immense tragédie que vous abordez assez souvent sur RFI, que tant de mères et d'enfants meurent encore à la naissance dans ces pays, c'est effectivement intolérable. Ce prix a récompensé trois projets qui ont permis de prévenir ces décès dans les services de maternité de plusieurs pays d'Afrique. Alors, notre projet de recherche intitulé Carité, il a reçu le premier prix. Cette récompense, elle concerne évidemment le chercheur principal que j'étais, mais aussi tous les directeurs de programme, les responsables de services, les médecins et les sages-femmes des hôpitaux qui ont participé à cette recherche au Sénégal et au Mali. Et elle honore particulièrement le professeur Mamadou Traoré, gynécologue obstétricien au centre de santé de référence de la commune 5 à Bamako, au Mali, qui s'est investi à 200% dans cette aventure. Je le salue car je sais qu'il m'écoute de Bamako. Un grand merci également, c'est une occasion unique pour moi de remercier également tous mes collègues chercheurs, médecins et sages-femmes du Canada qui ont été des partenaires incontournables dans la mise en œuvre du projet.
Alors, oui, c'est un travail qui s'est fait à plusieurs, mais pour décrire justement là aux auditeurs, qu'est-ce que vous avez fait qui a changé la donne et qui a permis justement de limiter, il y a des pourcentages qui sont assez parlants, de limiter cette mortalité maternelle et néonatale?
Alors, d'abord, il faut dire que le fait d'avoir récompensé ce projet, c'est un message important à adresser au monde entier. Il signifie que les solutions qu'on a testées pour améliorer l'état de santé des populations, des mères et des nouveau-nés en particulier, ne sont pas nécessairement technologiques. Voilà, notre solution à nous, elle n'était pas technologique. C'était un projet basé sur l'amélioration de l'organisation des services de santé, et non sur l'introduction d'un nouveau médicament ou d'un test diagnostique révolutionnaire, ni sur un vaccin providentiel.
Sur le savoir-faire.
C'est sur le savoir-faire. Les progrès médicaux sont souvent assimilés à des avancées technologiques qui mobilisent beaucoup de moyens financiers. Mais elles sont nécessaires, bien sûr, pour aborder de nouveaux défis de santé comme le sida ou la récente épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais on oublie souvent que les principales solutions pour régler les problèmes de santé, elles sont à portée de main. Alors, en quoi consistait notre solution exactement? C'est très simple. En fait, nous nous sommes inspirés d'une approche couramment utilisée dans l'aviation civile. Lorsque survient un crash aérien, vous le savez, on examine avec attention la boîte noire pour comprendre ce qui s'est passé et éviter qu'un problème similaire ne se reproduise à l'avenir. Alors, en appliquant cette méthode, l'avion est devenu en quelques décennies le moyen de transport le plus sûr.
On travaille sur les procédures.
On travaille sur les procédures, exactement. Sur le plan technologique, on sait bien que les avions d'aujourd'hui ne sont pas fondamentalement différents de ceux des années 80. C'est bien la gestion des risques et des erreurs humaines qui ont amélioré la sécurité des transports aériens et non l'innovation technologique.
Docteur alors, Alexandre Dumont, votre prix est doté d'1 million d'euros. Est-ce que vous savez à quoi vous allez destiner cette somme? Et il nous reste moins d'une minute pour répondre à cette question.
Écoutez, je pense qu'il va falloir qu'on continue ce que nous avons fait, c'est-à-dire appliquer cette méthode à la gestion des risques au moment de la naissance, apprendre avec les équipes médicales à revoir attentivement tout ce qui s'est passé lorsqu'une mère décède dans le service. Nous leur avons appris et on va continuer à le faire en Afrique et aussi probablement dans d'autres pays, à retrouver et analyser la fameuse boîte noire en quelque sorte. Hein. Et puis, je crois que cette récompense, elle nous honore tous, chercheurs, cliniciens qui ont participé au projet Carité, parce qu'elle replace l'être humain, le professionnel de santé en l'occurrence, au centre du dispositif du progrès médical. Et je pense qu'avec ce prix et aussi ce projet Carité, nous redonnons l'espoir à toutes celles et ceux qui œuvrent dans le service, les services de maternité des pays à faibles ressources pour faire en sorte que le jour de chaque naissance soit un jour heureux.
Le plus beau jour de la vie. Merci beaucoup, docteur Alexandre Dumont, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des maladies rares à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure votre retraite et vous invite à la préparer efficacement dès aujourd'hui. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.